Je vais transformer un peu le verset. Ainsi, la foi vient de ce qu'on comprend, et ce qu'on comprend vient de la parole de Christ. Maintenant, je le dis tel qu'il est écrit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais le mot « entendre » signifie aussi « comprendre ». Vous m'entendez bien ? C'est-à-dire, vous me comprenez bien. Vous avez compris. C'est entendu, c'est-à-dire, c'est compris, vous voyez ? Donc, il faut se rendre compte que si on ne comprend pas, on ne peut pas avoir la foi. Vous pouvez vous asseoir. Dieu soit béni. Moi, je ne peux pas croire une chose que je ne comprends pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça n'arrive pas. J'ai essayé, mais je ne peux pas. Je voudrais bien, mais je peux point. Ce matin, je voudrais donc vous parler de la foi. Et je voudrais vous dire que le principal obstacle que les gens rencontrent pour comprendre et pour pratiquer la foi, parce qu'on ne peut pas pratiquer si on n'a pas compris, comme je viens de vous dire, c'est que dans notre pensée, dans la pensée collective, nous opposons le naturel et le surnaturel. Moins en Afrique. Et c'est pourquoi il y a plus de miracles là-bas. J'ai voyagé dans plus de 70 pays et je peux vous dire, mes frères et sœurs, j'ai rencontré ça partout. Il y a ce qu'on appelle la chair. La chair, ce n'est pas simplement votre corps, mais c'est aussi tout ce qui concerne nos émotions, nos pulsions, nos machins, nos formes de pensée. Et puis, il y a l'esprit. La chair, elle se rattache à une sorte d'énergie, à une certaine sorte d'énergie, et l'esprit se rattache à une autre sorte d'énergie. Et dans l'inconscient collectif, on a tendance à dire que la foi appartient au royaume de l'esprit. C'est un don de Dieu, voilà. Donc la foi ne peut être mise en action que sous l'impulsion de Dieu. C'est comme ça que les gens pensent, ah, j'admire votre foi. Ah, si j'avais la foi que vous avez, ah, j'admire votre foi. J'entends beaucoup de gens qui disent, il faut prier pour avoir la foi. Il faut attendre pour avoir la foi. Et si la foi ne nous est pas donnée par Dieu, eh ben, nous sommes impuissants, inertes, incapables de faire la volonté de Dieu, immobilisés. Et puis, alors il faut attendre que Dieu daigne nous donner la foi. C'est un grave malentendu, mes frères et sœurs. Cette pensée-là, elle est stérilisante. Elle est stérilisante. Mes frères et sœurs, souvenons-nous comment Dieu nous a créés. Comment Dieu nous a créés. La Bible dit que nous sommes un corps qui est habité par un esprit. Dieu a formé un corps de la poussière de la terre et il a soufflé dedans un esprit. Il a mis dedans un esprit. Quel esprit ? Mon esprit. Il a mis mon esprit, l'esprit de Michel Janton. Mon esprit est éternel. Et la Bible dit qu'un jour mon corps retournera à la poussière d'où il a été pris et mon esprit retournera à Dieu qui l'a donné. C'est-à-dire, si on retourne, c'est qu'on y était déjà avant. Hein, mon esprit retournera à Dieu. Donc mon corps est habité par un esprit. La fusion du corps et de l'esprit, ça fait l'âme. Ah, l'âme. Ça, c'est toute une histoire, l'âme. Pourtant, ce n'est pas bien compliqué. Le mot âme, ça signifie être vivant. Vous êtes un être vivant si vous êtes un corps et un esprit. Si tôt qu'il n'y a plus d'esprit, vous n'êtes plus un être vivant, vous êtes un corps mort. Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est ça l'âme. L'âme, c'est la fusion entre l'esprit et le corps, c'est ce qui fait que vous êtes vivant, vous êtes un être vivant. Or, la Bible dit que nous sommes des êtres vivants faits à l'image de Dieu. Il faut retenir l'idée. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie que nous sommes faits à l'image de Dieu ? Nous sentons, nous désirons, nous voulons, nous parlons, nous agissons, etc., etc., etc. Et toutes ces merveilleuses facultés se combinent pour former la personne que nous sommes. Moi, je combine le sentir, le désir, la vouloir et toutes ces choses d'une façon un peu différente de vous. C'est ce qui fait que vous avez une personnalité différente de la mienne. Mais en fait, on a tous ces facultés, on a tous pareil, mais on en fait des choses différentes. On les combine différemment. Et c'est bien comme ça, tout le monde ne ressemble pas à Michel Janton, c'est super. Sinon, ça serait ennuyeux, mon Dieu. Vous avez vu hier soir comment je suis bavard, si tout le monde était bavard comme moi, comment on ferait? Mais bon, toutes ces facultés, il faut absolument intégrer cette idée-là. toutes ces facultés sont neutres en elles-mêmes. C'est neutre. Je sais de quoi je parle, je suis suisse, on est neutre de naissance. Toutes ces facultés sont neutres. C'est-à-dire qu'elles ne sont ni bonnes, ni mauvaises. C'est clair? Ces facultés, en fait, elles sont des matières brutes de la nature humaine. Elles sont des forces puissantes, et ces forces puissantes-là, nous les dirigeons vers le bonheur ou vers le malheur. C'est notre esprit qui dirige tout ça. Aimer, haïr, admirer, mépriser, se vanter, s'humilier, être en colère, être calme, avoir peur, faire confiance, être désagréable, être aimable. Aucune de ces choses n'est ni bonne ni mauvaise. Il est même dit que Dieu est jaloux. C'est pas mauvais quand c'est Dieu qui est jaloux, parce qu'il l'est à juste titre. Vous comprenez? C'est ni bon ni mauvais, ces facultés que nous avons. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Il faut bien comprendre ça. Ce sont des choses, ce sont des éléments de la nature que Dieu a donné à la descendance humaine, nous l'avons tous. Par ces éléments, les hommes et les femmes sont faits à l'image de Dieu. Et par ces éléments, nous suivons notre propre chemin ici-bas. Voilà. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que vous marchez selon votre esprit ou selon votre corps, selon votre chair, selon votre chair, pour prendre le mot biblique? C'est ça qui est important. C'est là où se trouve la limite. Quand un homme ou une femme a bien compris ça, le caractère neutre de ces matériaux bruts de la nature humaine, quand il a bien compris ça, et quand il a bien compris leur relation avec l'esprit qui les gouverne, il possède la clé. Il possède la clé pour savoir comment vivre sa vie chrétienne ou comment vivre sa vie non chrétienne. Une personne qui a bien saisi le caractère neutre de ces matériaux de la nature humaine, je vais dire, je me répète, mais vous savez, si on ne répète pas, on oublie. Quand une personne a bien saisi le caractère neutre de ces matériaux qui forment la nature humaine, alors il a la clé pour comprendre les tentations, le pourquoi des tentations, comment vaincre les tentations, comment utiliser les tentations, comment être délivré des fausses condamnations, comment acquérir un discernement juste entre la chair et l'esprit, comment résoudre tout le vaste problème de la sanctification, de la mise à part pour Dieu, comment résoudre ce problème. La foi. Maintenant, je vous ai dit que j'allais vous parler de la foi. Eh bien, la foi est une des facultés majeures dont nous sommes tous doués. Tous. Vous qui me regardez à la télévision là, vous qui écoutez sur Internet, vous qui êtes ici à la chapelle, vous êtes tous, absolument tous, doués de cette faculté qu'est la foi. La plus grande des facultés, c'est l'amour. Dieu est amour. Tout est amour ou amour sous sa forme inverse, c'est-à-dire haine. Dieu est amour, l'homme aussi, la femme aussi, on est amour. Mais il faut savoir que l'homme est amour perverti. L'homme est amour purifié. Tous les gens aiment. Il n'y a qu'à écouter les chansons, il n'y a qu'à regarder les gens. C'est toujours des histoires d'amour. On aime. Tous les gens aiment, mais la chose c'est, quel est l'objet de votre amour, c'est ça? Quel est l'objet de votre amour? Il y a des gens qui aiment la gloire, il y a des gens qui aiment l'argent, il y a des gens qui aiment... Mais ils aiment. Maintenant, ce qui est le plus important après l'amour, c'est la foi. Ça, c'est ce que Paul nous enseigne. Il a raison, c'est vrai. L'amour, c'est la force motrice. Le désir, l'amour pur ou l'amour perverti, c'est la force motrice. C'est ce qui permet de maîtriser, c'est ce qui permet d'inventer, c'est ce qui permet de créer toute chose. Tout ce que vous voyez là, c'est par amour de quelque chose. Savez-vous que la télévision était créée par amour du foot? C'était un fanat de foot. Il a créé la télévision pour pouvoir voir en France des matchs de foot qui avaient lieu en Angleterre. C'est tout, tout est par amour. C'est toujours de l'amour dedans. Si vous cherchez, c'est toujours l'amour à la base. Et ce qui tient le gouvernail dans ce monde, dans l'humanité, c'est pas la raison, c'est l'amour. Alors, l'amour, ça donne l'impulsion, mais c'est la foi qui agit. C'est la foi qui agit. La foi, elle est action. Ça aussi, c'est Paul qui l'enseigne. La foi est action. Un homme, une femme, ne peut agir que par la foi. Et la foi, elle agit par amour. Alors maintenant, observez un peu la place de l'amour et de la foi dans le comportement des êtres humains. Observez ça, regardez. Par exemple, vous mangez, nous mangeons. Pourquoi ? Parce qu'on a envie, parce que l'amour, le désir de manger nous pousse, alors on mange. On aime manger, hein ? Hier c'était super, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais comment mange-t-on ? Qu'est-ce qu'on mange ? Hier, on a mangé du poulet à l'ananas. C'était super. J'ai vu l'aliment, j'ai senti l'aliment. Ma foi, j'ai trouvé que c'était appétissant et nourrissant. J'ai cru dans sa valeur. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait ? J'en ai pris dans mon assiette, j'en ai mis dans ma bouche, je l'ai mâché, je l'ai avalé, puis après, je l'ai digéré. On va s'arrêter là, peut-être. Tous ces actes sont des actes de foi, de pure foi. Si ma foi avait été ébranlée un tout petit peu, si quelque chose avait transformé ma foi en le contraire de la foi, si j'avais cru que c'était mauvais pour moi, j'aurais immédiatement cessé d'en manger. Toute action humaine est foi. La foi, c'est l'action. Jésus, l'apôtre nous dit que la foi sans l'action, c'est mort, ça n'existe même pas. La foi, c'est la seule méthode naturelle et la seule méthode instituée par Dieu qui nous permette d'aller jusqu'au bout de ce que nous voulons faire, jusqu'au bout de ce que nous voulons obtenir, jusqu'au bout de ce que nous désirons. Alors, mais tous, hein, païens et non païens et chrétiens, tout le monde. Nous avons été tous créés à l'image de Dieu et les facultés fondamentales que Dieu nous a données sont l'amour et la foi. Dieu nous a créés lui-même par amour et par la foi. La foi, c'est faire sortir de l'invisible, rendre visible ce qui est... c'est ce qu'il a fait avec nous, on n'existait pas, puis il nous a fait par la foi. Par la foi en qui ? Par la foi en lui-même. Il ne suffit pas simplement d'avoir la foi en Dieu, il faut aussi avoir la foi en soi, il faut avoir la foi dans la chaise sur laquelle vous vous êtes assis. Qui a réfléchi ce matin ? Cette chaise, est-ce que vraiment elle va me soutenir ? Je crois que je vais demander à quelqu'un d'autre de s'asseoir d'abord pour voir si ça tient. Non, c'est assis, point. Tout ce que nous faisons, respirer, ou faire une découverte scientifique, ou faire le marathon de Paris comme Alain en ce moment, bonne chance Alain, il est 11h07. Il est encore en train de courir, il en a encore pour 50 minutes à peu près. Ou sortir des ténèbres pour entrer dans le royaume de lumière du Seigneur Jésus-Christ, tout ça, vous ne pouvez pas faire autrement que de le faire par la foi. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'exercer votre foi dans un sens ou dans un autre. Un jour, un homme s'est présenté devant Jésus et a dit, si tu le veux, comment c'était dit déjà l'histoire, me rendre pur, c'est ça ? Bien sûr, je veux, bien sûr. Qu'il en soit fait selon ta foi. Si l'homme n'avait pas cru que c'était possible, il ne serait rien arrivé. Le miracle ne venait pas de Jésus, il venait de la foi de la personne. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme qui avait la perte de sang ? Il a dit, ta foi t'a guéri. Il a jamais dit, c'est moi que je suis Jésus que je t'ai guéri. Bien sûr que c'est Jésus qui guérit, bien sûr. Mais c'est ta foi qui fait la différence. Où tu places ta foi, où tu places ton amour, où tu places ta confiance. C'est ça le truc. Alors, la foi c'est une faculté naturelle. La foi vivante, elle est action. La foi morte, elle ne produit rien du tout, aucune œuvre, rien du tout. Alors, chercher la foi ou prier pour avoir la foi, c'est ridicule, c'est religieux, c'est ridicule. Ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que vous l'avez déjà. Vous en avez autant que moi. J'en ai autant que frère Osborne. J'en ai autant que Jésus. Jésus a dit que ce qu'il a fait, je peux le faire. Je le prends en mot, je le crois. Vous voyez jusqu'où ça va ? Il est écrit dans 1 Jean que tel il est, tel Jésus est, tel je suis dans le monde. Est-ce que vous pouvez vous dire, est-ce que vous pouvez dire ça ? Vous pouvez le dire si vous avez la foi. Mais maintenant, il faut agir d'après ça. Vous comporter d'après ça, par cette connaissance, par cette compréhension. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend, de ce que la parole de Dieu dit. À partir de là, on agit. Et sinon, on n'agit pas, puis voilà. Et là, tout est la différence. Alors, y a-t-il une foi pour les choses naturelles et une foi pour les choses spirituelles ? Non. Il n'y a pas deux sortes de foi à relier entre elles. Parce que dans les deux domaines, il s'agit d'exercer la même faculté, celle de croire. Celle de croire. Et puis ça, cette faculté-là, elle nous a été donnée par Dieu, vous l'avez autant que moi. La différence réside uniquement dans l'objet de votre foi. Dieu nous a créés pour qu'on soit des êtres spirituels. Hein, dans la Bible, c'est écrit « marchez selon l'esprit », c'est-à-dire « soyez spirituel ». Il ne faut pas marcher selon la chair, c'est-à-dire succomber à toutes les tentations, tout le machin qui nous passe par la tête, nos pulsions, nos machins. Non, marcher selon l'esprit. Nous sommes à l'image de Dieu, Dieu est esprit, et la chose, des choses de l'esprit, pour l'homme, eh ben, elles ne sont pas surnaturelles. Les choses de l'esprit, pour nous les hommes et les femmes, ça n'est pas surnaturel. C'est surnaturel pour ceux qui ne croient pas en elles. Pour nous, non. Pour nous, c'est naturel. La Bible dit que ceux qui ont le cœur pur, ils voient Dieu. Si l'homme était resté pur, il serait accoutumé à une vue spirituelle de Dieu. Si l'homme était resté pur, eh bien, il serait facile pour lui aussi facile pour lui de voir Dieu que de voir cette plante artificielle. Mais, à cause de la chute en Éden, Adam et Ève, à cause de ça, la vue spirituelle a cessé d'être naturelle. Elle est devenue surnaturelle. À cause de la chute, parce que nous sommes descendus d'un cran très très sérieux. L'homme, la femme, ils sont devenus aveugles au royaume de Dieu. Ils sont devenus aveugles, ils se sont mis à percevoir uniquement que ce que leurs cinq sens leur montraient, et aussi à voir que le temps passe, mais c'est tout, ça ne va pas plus loin. Alors, aujourd'hui vous êtes entrés ici, vous êtes entrés là, vous avez vu, comme je vous disais tout à l'heure, les chaises. Eh bien, vous en avez choisi une et vous vous êtes assis, ça c'est la foi. C'est votre premier acte de foi que vous avez fait ici. C'est un acte courant de la vie et c'est un acte tellement courant, tellement normal, tellement naturel que personne n'a l'idée d'appeler ça de la foi. Mais c'est de la foi pure. Maintenant, la Bible nous dit qu'il y a un gouffre à franchir. Et l'homme ne peut pas construire un pont pour franchir ce gouffre. Je vous ai parlé de la chute. L'homme et la femme ont transgressé la loi de Dieu. Il y a eu une coupure entre Dieu et l'humanité. Et c'est un gouffre. Et pour retourner dans notre condition première, pour retourner à ce que nous étions avant d'avoir désobéi, avant de se rendre coupable, pour retrouver ce que c'est qu'un véritable homme tel que Dieu l'avait créé, pour retrouver la condition de ce que c'est qu'une vraie femme tel que Dieu l'avait créé au jardin d'Éden, il faut franchir ce gouffre, et c'est impossible. Parce que Dieu a fait que ça soit impossible. Pour passer du naturel au spirituel, pour revenir au paradis, pour revenir à la condition d'innocence, de perfection telle que Dieu nous avait créé, c'est pas possible. sauf par la foi. Sauf par la foi. Mais pas une foi bête, une foi qui s'est instruite. Instruite dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour apprendre comment. Comment je peux aller de l'autre côté? Comment je peux retrouver mon état d'innocence? Comment je peux retrouver cette non-culpabilité? Comment je peux être de nouveau en communion avec Dieu? Comment est-ce que je peux vivre une vie de réussite, de paix avec Jésus, avec les autres, avec moi-même déjà? Comment? La Bible dit que Dieu a construit un pont. Et maintenant, par la foi, je dois marcher sur ce pont. Il a construit un pont pour franchir ce gouffre entre notre condition mortelle et son royaume éternel. Alors, si nous pouvons franchir ce pont par la foi, n'essayons pas autrement. Si on peut franchir ce gouffre, si on peut passer d'un côté à l'autre côté par la foi, puisque la Bible dit que c'est que par la foi, pourquoi essayer de faire autrement? Pourquoi essayer de construire soi-même un pont pour essayer de marcher là-dessus, pour arriver de... On ne peut pas. La religion ne vous aidera pas à traverser ce gouffre. Tout le bien que vous faites ne vous aidera pas à passer ce gouffre. Vous resterez toujours dans votre coin, vous tomberez encore plus profond. Nous pouvons franchir ce pont avec les deux puissantes facultés que sont l'amour et la foi. Comme on a vu, l'amour et la foi, c'est neutre. Si on place notre amour dans ce qui est injuste, dans ce qui est faux, dans ce qui est mauvais, par exemple dans la religion, pardonnez-moi, sur Internet il y en a qui m'écrivent « Mais vous bouffez de la religion tous les dimanches ». Oui, ben excusez-moi, ils ont fait tellement de mal les religieux. Et ils continuent. Donc je reprends. Si vous placez votre amour dans ce qui est injuste, dans ce qui est faux, dans ce qui est mauvais, comme par exemple la religion, eh bien, vous allez produire l'injustice, le faux, le mauvais, l'illusion dans votre vie. La déception, la désillusion. Et vous allez salir les autres au passage. Par contre, si vous placez votre amour dans ce qui est bon, dans ce qui est vrai, dans ce qui est authentique, dans ce qui est louable, dans ce qui est honorable, ben vous allez produire des choses louables, honorables, belles, bonnes, et puis au passage, vous allez influencer les autres, ceux qui vous entourent, d'une façon digne, louangeable, etc., etc., et honorable. Ça dépend où vous mettez votre amour. Donc, Dieu a jeté un pont entre son royaume et la pauvre condition d'être mortel que nous sommes. Et il n'a pas dit « Coucou, c'est moi, venez, je vous attends. » Non, il a construit le pont et il a traversé lui-même le gouffre, il est venu lui-même. Il est venu lui-même. Jésus, c'est Dieu avec nous. C'est Dieu dans la chair. Dieu est venu lui-même, il est venu là dans un corps de chair, il s'est fait homme. Il a vécu sur la terre avec les mêmes facultés que les nôtres. C'est pourquoi il peut nous comprendre, il sait ce que c'est. Et il a fait face à toutes nos tentations. La Bible dit à toutes nos tentations. Ne condamnez jamais un pécheur. Dites pas, oh, ça me dépasse. Non, non. Jésus a été tenté de pécher comme ce pécheur dont vous dites ça me dépasse. Il était tenté, mais il n'a pas succombé. Mais on est tous tentés. Comme Jésus a été tenté en toutes choses. Il faut être honnête. Un jour ou l'autre, ça nous arrive, on est tenté. Alors, il n'a pas succombé aux tentations, il s'est tenu ferme, et à la fin, il s'est chargé de nos fautes. C'est ce que la Bible me dit. Il a pris sur son compte toutes nos fautes, qui faisaient que nous ne pouvions pas franchir ce pont, parce que Dieu veut pas dans son paradis des pourris, des pécheurs, des corrupteurs, non, il veut pas, il veut rester tranquille dans son paradis, il veut pas de ça. Alors Jésus a pris tout ça sur lui, et puis sur votre compte, sur mon compte, il a mis son lot de justice. Il était juste, il était parfait, il a mis cette perfection à votre compte. Maintenant, quand Dieu vous regarde du haut du ciel, depuis que Jésus est mort sur la croix en portant vos péchés, Dieu ne vous voit plus avec des péchés, il vous voit avec ce que Jésus a mis sur votre compte, c'est-à-dire sa propre justice, il vous voit pur. C'est formidable. Ça, c'est la décision de Dieu. Par amour, il fait ça. Par amour pur. Et par la foi aussi. Il croit que maintenant, on va être content. Ben, il y en a beaucoup qui ne sont pas contents. Ben, tant pis, qu'est-ce que vous voulez? Ils font leur choix. Hein. Moi, je vous dis la vérité, vous n'en voulez pas, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que ça change dans ma vie si vous n'en voulez pas? Si vous prenez ce que je vous dis, si vous croyez, je vais être content. Mais si vous ne prenez pas, mais croyez-moi, je ne vais pas pleurer tout le reste de l'année. Non, je vais passer au suivant. Voilà ce que je vous dise. Je ne vais pas faire une affaire d'État, je ne vais pas me rendre malheureux. Non, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de semer la parole de Dieu, de dire ce que Dieu a fait. Je vous le dis, voilà. Avec amour, puis avec la foi que vous allez comprendre et que vous allez prendre ce que je vous dis. Il est mort avec tout ça, sur lui, tous nos péchés. Et puis il a vaincu la mort, il est sorti de là. Il est ressuscité. Qui c'est qui dit qu'il est ressuscité? Eh, des milliers d'hommes et de femmes, à l'époque, sont morts martyrs parce qu'ils ne voulaient pas renier que Christ était ressuscité. Et vous oseriez mettre en doute ça? C'est comme si vous mettiez en doute la Shoah. C'est comme si vous mettiez en doute le fait que les Juifs ont été massacrés par le nazisme. Il y a eu des milliers, des dizaines et des dizaines de milliers de chrétiens, de personnes qui ont vécu à cette époque-là, qui sont morts parce qu'ils n'ont pas voulu renier Jésus-Christ, mort pour leurs péchés et ressuscité. Ils sont morts pour ça. Et vous, là, avec votre... Non, je ne sais pas parce que... Vous allez... Il a vaincu la mort, il est ressuscité, c'est historique. L'histoire des martyrs chrétiens du 1er siècle, c'est historique. Vous ne pouvez pas les compter. Ces gens-là ne sont pas morts pour une idée. C'était la vérité qu'ils connaissaient, eux, l'avoir touché. Il a annoncé Jésus, la bonne nouvelle. Il a donné ça à ses apôtres qui sont allés le prêcher. Et c'est venu jusqu'à nous ici à Lemblor, dans cette petite bourgade. Alors, qu'est-ce qu'il a prêché? Il a dit, placez votre foi en moi. Ayez confiance. Croyez que je vous aime. Ne croyez pas que je suis en colère contre vous. Je vous aime. Ayez la foi que j'ai tout accompli sur la croix pour que vous puissiez être pardonné, justifié, pour que vous puissiez naître de nouveau. J'ai pris le châtiment que vous méritiez parce que vous avez péché, vous avez fait des choses mauvaises, vous méritiez une punition. Cette punition, c'était la mort, la séparation d'avec Dieu, c'était l'anéantissement. Et puis, j'ai pris ça sur moi, pour que vous puissiez vivre. La seule condition, je vous demande de le croire, de croire. L'apôtre Jean, dans son évangile, nous donne une phrase de Jésus magnifique que tous les chrétiens connaissent. Dieu a tant aimé le monde, aimé, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, et qu'il ait la vie éternelle. Je remplace le mot quiconque, je change le texte et je dis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que Michel Janton croit en lui, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mettez votre nom maintenant. Pendant que je vais dire ça, quand j'arriverai au mot quiconque, prononcez votre nom, prononcez-le à haute voix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que... Crois en lui et ne périsse pas, mais il est la vie éternelle. C'est pour vous. Méritez pas, moi non plus. Mais c'est pour vous. Est-ce que vous pouvez croire? Oui, vous avez la foi. Vous avez la foi. Vous pouvez le faire, vous pouvez croire, vous avez déjà la foi. Décidez maintenant de placer votre confiance en lui. Celui qui reçoit Jésus, la Bible nous dit, reçoit la vie éternelle. Ça ne veut pas dire simplement la vie à perpète assis sur un nuage. Ça veut dire la vie de la qualité de l'éternel. Une vie puissante, créative. Ça va être extraordinaire. La Bible nous dit un tout petit peu, soulève un tout petit peu le voile pour nous dire ce qu'on va faire pendant cette éternité. Cette éternité, on va créer des mondes. On va diriger des villes, des planètes. On va diriger des pays. Ça va être génial. Moi, j'espère que je managerai la télévision. Oh, j'espère que Dieu va me donner ça, parce que j'aime bien, je déteste les journalistes avec leur mauvaise foi et tout ça. Il y en a des bons, hein, mais dis donc, il faut les chercher. Hein. Donc voilà, j'aimerais bien... Bonjour, il est 20h, aujourd'hui je vous parle de la planète Schlonk. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, et puis je vous raconterai les infos, voilà ce qui s'est passé sur la planète Schlonk, ce sera formidable. Vous regarderez le journal de 20h. Il y aura des choses fantastiques. On s'ennuiera pas, hein, on s'ennuiera pas. Il y en a qui disent, oulala, l'éternité, on va s'ennuyer. Non, ça va être super. On ne peut pas recevoir la vie éternelle en faisant le bien. On en est incapable. Vous avez essayé, moi aussi, on ne peut pas, on n'y arrive pas. Hein, l'enfer, on dit, il est pavé de bonnes intentions. On ne peut pas. Voilà, on ne peut pas. Mais Dieu a fait lui-même pour nous, à notre place, pour que nous puissions recevoir la vie éternelle comme un cadeau gratuit. C'est un cadeau gratuit, c'est un cadeau. Quand j'ai acheté avec ma femme, on a acheté un cadeau parce qu'on est invité samedi prochain à un mariage. Alors on a acheté un cadeau. On ne va pas demander l'argent, on donne le cadeau, ça ne va rien coûter à ceux qui vont le recevoir. Par contre, à nous, ça nous a coûté quelque chose. Ben, le cadeau que Jésus vous fait là, de la vie éternelle, ça ne vous coûte rien, mais à lui, ça lui a coûté sa vie sur la croix. Ça coûte toujours quelque chose à quelqu'un. Et là, c'est lui qui a payé pour que vous puissiez recevoir ce cadeau de la vie éternelle. Il vous offre la vie éternelle. Il vous offre la réconciliation avec Dieu. Il vous offre l'harmonie entre lui et vous, l'harmonie en vous-même, l'harmonie avec les autres. Il vous offre sa protection, il vous offre sa bénédiction, il vous offre des miracles, il vous offre une nouvelle vie. Vous avez de l'amour, placez-le là. Vous avez de la foi, placez-la à cet endroit, en Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Recevez cette bonne nouvelle. Raconte une histoire. Vous aimez les histoires? C'était un homme qui avait commis un délit et qui était en prison et qui était condamné à mort. Et il attendait. Il était assis dans sa cellule. Et un jour, la porte s'ouvre et il voit le gardien avec deux flics et le bonhomme derrière. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est arrivé. Ils viennent me chercher pour me faire la piqûre. Et le gardien dit, lève-toi. Il se lève, il dit, sors, t'es libre. Tu commences. Il dit, oui, l'homme que tu vois là, il a décidé de prendre ta place. C'est lui qui va mourir à ta place. Il a fait un deal avec le juge. Le juge, ils sont tombés d'accord et c'est lui qui va mourir à ta place. Deux possibilités d'attitude.
Oh, c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Il faut pas me raconter à moi si c'était si simple, hein? Ah non, moi je préfère rester dans ma prison puis attendre la mort.
Ça, c'est la réaction du crétin. Choisissez quelle sorte d'homme vous voulez être. Vous êtes prisonnier dans vos péchés, vous êtes prisonnier dans votre misérabilisme, vous êtes prisonnier dans vos incapacités, dans vos limitations, vous êtes prisonnier, on est tous comme ça. Mais Jésus vous offre la liberté, la vie éternelle, il vous offre tout, il vous donne tout ça. Vous allez dire,
ah, c'est trop beau pour être vrai.
Vous avez la foi, placez-la dans cet amour qu'il a pour vous. Quelle que soit votre situation, placez votre foi en lui. Si c'est pour le pardon de vos péchés, placez votre confiance en lui. Croyez qu'il vous aime et qu'il vous a pardonné. Dites-lui, mon Dieu, je te remercie parce que tu pardonnes mes fautes, tu pardonnes mes péchés. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus, maintenant donne-moi la force pour marcher d'une façon pure. Si c'est pour la guérison de votre corps, vous êtes peut-être déjà chrétien, ou je ne sais pas, et puis vous êtes malade, placez votre confiance en lui. Merci Seigneur, parce que tu t'es chargé aussi de mes maladies. C'est écrit dans Ésaïe 53, c'est écrit plus pas seulement là, mais c'est écrit partout au travers de la Bible. Placez votre foi là-dedans, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il a fait. Croyez que c'est vrai. Pour n'importe quelle situation, vous avez des difficultés d'ordre professionnel ou toutes sortes de trucs ou des addictions, je ne sais pas quoi. Placez votre confiance en lui, il va vous délivrer, il va vous aider, il va venir à votre secours, il a promis, il vous aime, alors il va agir. Quand on aime, on agit, c'est-à-dire quand on aime, on a la foi, il a foi en vous. Avez-vous foi en lui? Allez-vous mettre votre foi en lui? Ce matin, vous avez compris que vous avez été doué de deux facultés majeures, c'est l'amour et la foi. Il faut que vous placiez votre amour sur celui qui vous aime. Le diable est en train de vous dire, ne l'écoutez plus, vous l'avez assez écouté dans votre vie. Ça suffit maintenant. Stop. Placez votre foi en Dieu. Si vous décidez de le faire, quelle que soit la difficulté que vous ayez, levez-vous et je vais prier pour vous. Levez-vous. Ne regardez pas si ça plaît à gauche, à droite. C'est votre vie. C'est votre vie éternelle ou pas éternelle. C'est votre vie à vous. Choisissez la vie et non la mort. Choisissez la vie afin de vivre et non la mort. Choisissez Jésus. Placez votre confiance en lui. Placez votre amour sur lui. Faites-lui confiance et allez de l'avant. Croyez que c'est possible. Croyez, il a promis. Il a dit, c'est parole de Dieu. C'est pas parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Croyez Dieu, votre créateur, celui qui vous a formé dans le ventre de votre mère. C'est lui qui a raison. En fin de compte, c'est lui qui aura raison. Et quand vous arriverez devant lui, vous ne pourrez pas dire, mais je ne savais pas. Si, vous savez, parce qu'un jour, ici à Lamblore, tu as entendu une espèce d'exalté qui te l'a dit. Tu le sais maintenant. Place ta confiance en lui. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Placez votre main sur votre cœur maintenant et recevez le pardon de vos péchés. Recevez une vie nouvelle. Recevez la guérison de votre corps. Recevez la délivrance de votre addiction. Recevez la puissance dont vous avez besoin pour faire face à vos difficultés. Recevez l'intelligence pour pouvoir résoudre le problème que vous avez au nom du Seigneur Jésus. Tout cela se trouve dans la foi, dans la croyance, dans la croyance en celui qui vous a tant aimé, crois seulement, crois seulement.
Crois seulement.
Jésus t'aime. Il te pardonne maintenant. Il pose sa main bénissante sur toi. Il te lave, il te purifie. Il fait de toi un être nouveau. Il fait renaître l'espoir dans ta vie. Des choses que tu croyais définitivement mortes maintenant vont se remettre à vivre. Maintenant, tu ne seras plus la queue, tu vas être la tête. Tu seras plus au fond, tu seras en dessus. Il passe une alliance avec toi. Une alliance qui t'offre une pleine sécurité. Alléluia. Il te soutiendra de sa droite triomphante jour après jour, jour après jour. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Entre dans la louange ce matin, tout simplement en le louant, en disant merci Jésus, merci mon Dieu. Je comprends pas tout, mais je sens au fond de mon cœur que ça c'est vrai. Ça parle dans mon cœur, ça c'est. Je sens que c'est vrai.
Crois seulement, tout est possible. Celui qui croit, crois seulement, crois seulement. Possible, crois seulement. Ele é manaivo, 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 ele é manaivo